On sait aussi sur les prix.
Offre de remboursement valable dans les 500 magasins participants. Points crédités sur votre carte de fidélité. Modalité disponible sur nicolas.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Pas très confort ces transats, non?
Ah, je suis bizarre, moi.
Mais c'est quoi ce petit bruit énervant, là?
Bah, je veux dire la mer.
La mer, c'est ça.
On s'habitue vite au confort du nouveau Skoda Elroq 100% électrique. Découvrez-le dès 339 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Offre à particulier jusqu'au 30 juin. LLD 37 mois pour un Elroq 50. Apport de 0 € après bonus écologique de 2 000 € déduit. Sous réserve d'accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr.
Skoda.
Pensez à covoiturer.
RTL.
Il est 13h.
Journal inattendu d'Antoine Decaune.
13h, les titres de l'actualité.
Nathalie Renaud.
Israël et l'Iran poursuivent leurs échanges de frappes meurtrières au lendemain de l'offensive de l'État hébreu contre des sites militaires et nucléaires iraniens. Des attaques qui ont fait au moins 78 morts en Iran, dont 9 scientifiques du nucléaire. L'Iran a immédiatement répliqué en tirant des dizaines de missiles balistiques contre Israël, faisant 3 morts. Face à cette escalade qui devrait durer de nombreux jours, selon Benjamin Netanyahou, le pape Léon XIV a lancé un appel à la responsabilité et à la raison. Nul ne devrait jamais menacer l'existence de l'autre. Fin de citation. Dans ce contexte de tension, des manifestations pour réclamer la paix à Gaza et la reconnaissance de l'État palestinien ont lieu un peu partout en France aujourd'hui à l'appel des syndicats et des partis de gauche. Dans le cadre d'un week-end mondial de mobilisation, le cortège parisien partira de la place de la République à 14h. Les orages ont été violents hier soir. Un mort à Grandchamp, dans les Yvelines, un homme qui s'était réfugié dans un pavillon de chasse avec 6 autres personnes lorsqu'un arbre frappé par la foudre s'est abattu sur le bâtiment. Il est resté coincé sous les décombres. Et puis à Paris, une femme a aussi été victime de la chute d'une branche d'arbre. Elle a été transportée à l'hôpital en urgence absolue. Un mort et 6 blessés dans une fusillade ce matin dans un camp de migrants à Grande-Synthe. Le tireur a agi avec une arme lourde, type Kalachnikov, d'après une source policière. Il a été interpellé par la police. Et puis du sport ce week-end, les 24 heures du Mans qui s'élanceront à partir de 16h. 62 équipes au départ, dont 21 hypercars catégorie Rennes. En rugby, Bayonne s'est qualifié pour les demi-finales du top 14 hier soir en battant Clermont 20-3. Les Basques affronteront le Stade Toulousain vendredi prochain. Ce soir, second barrage qui oppose Toulon à Castres à 21h et le vainqueur défiera l'Union Bordeaux-Bègles en demi-finale. La météo, c'est la tradition du journal inattendu, c'est notre invité qui nous la donne. C'est donc à vous, Antoine Decaune.
C'est moi qui vous lis ça ?
Mais oui.
Vous êtes sûr ?
Ah oui.
D'accord. Alors le temps cet après-midi, plutôt ensoleillé dans l'est et le sud du pays, mais des orages sont à nouveau prévus ce soir, en particulier du massif central au nord-est. Dans le nord, l'ouest et les régions centrales, je vais essayer de mettre un peu d'humeur.
Mais bien sûr, on attend ça de vous.
Vont alterner avec quelques averses en fin de journée en Nouvelle-Aquitaine et près des Pyrénées. Les températures seront comprises entre 20 degrés à Brest, 36 à Lyon, ah ouais carrément. Il fera 27 à Lille et Bordeaux, 29 à Paris et 31 à Marseille.
Eh ben vous faites ça très bien,
c'est
merci
bon,
Antoine Decaune, vous êtes
cherche
qualifié.
Un petit job d'été.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres.
Les vieux ne parlent plus, ou si seulement parfois du bout des yeux, disait Jacques Brel.
Quelle déprime.
Bah oui, alors que vous, vous nous faites un magazine vieux dont vient de sortir le numéro 5, avec en couverture José Garcia à vos côtés. Et les vieux, vous vous y intéressez pour quelles raisons ?
Alors ce sont les vieux qui se sont intéressés à moi en fait. Moi j'avais rien demandé, et puis Romain Jubert, qui est un éditeur de talent, est venu me proposer de participer à ce journal. Et j'ai adoré le titre. Vieux. Parce que je déteste toutes les périphrases.
Les seniors, les vétérans,
les
tout ça, ça
veut... Les matures, les seniors, tout ça. Non, on est vieux. Je trouve que c'est un beau mot, vieux, et il faut toujours assumer ce qu'on est. Or, moi, je suis vieux, biologiquement, j'ai 70 balais, 71 maintenant, donc je peux parler de ce que je connais.
Alors, il y a votre magazine Vieux, vous le dites, qui est beaucoup plus trendy, beaucoup plus moderne que notre temps, par exemple.
Il y a... C'est pas ça, c'est qu'il y a...
Bah, si, quand même.
Non, mais si vous voulez...
s'adresse à des gens qui ont envie de rester jeunes.
Des gens qui sont vieux aujourd'hui, biologiquement, mais qui ont grandi en écoutant les Beatles, les Stones, les Springsteen.
Oui. On va parler de tout ça. Il y a aussi Mesdames, c'est un média créé par Maïté Nabiraben, qui s'adresse aux femmes ménopausées de plus de 50 ans. Est-ce que le tabou de la vieillesse est en train de tomber ? Nous posons la question.
Le micro tendu
du journal inattendu.
Et c'est Antoine Decarne qui tend son micro comme chaque samedi. Bonjour Antoine.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Alors est-ce que les vieux prennent plus d'espace? Est-ce qu'ils sont plus visibles aujourd'hui? Leur image a-t-elle changé?
Eh bien oui Nathalie, ça saute aux yeux quand on observe le nombre de contenus qui leur sont dédiés. Aujourd'hui, on s'adresse directement aux vieux. D'ailleurs, ce terme « vieux », il est désormais mieux accepté dans la société. C'est ce que m'a expliqué Serge Guérin. Il est sociologue et spécialiste des enjeux du vieillissement.
C'est vrai que pendant longtemps, ce mot-là a été mis un petit peu de côté. On parlait de seniors, on parlait des aînés, troisième âge ou quatrième âge. Moi, j'avais écrit un livre il y a plus de 15 ans, « Vive les vieux ». Et à l'époque, pour l'anecdote, j'avais reçu des courriers et les gens me disant « Ah, enfin, quelqu'un qui dit vieux !» et d'autres me traitant de raciste. Il y avait même quelqu'un qui voulait porter plainte contre moi parce que j'ai utilisé le terme. Les mots évoluent, parce qu'aussi la société évolue.
Et c'est cette évolution de la société qui a rendu plus visibles les vieux pour plusieurs raisons assez logiques.
La première, elle est toute bête, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de vieux présents dans la société française. Deuxième élément, c'est que les gens en question ont rajeuni dans leur tête, ont rajeuni dans leur corps. Vous avez à la retraite, je ne sais pas, moi, 65 ans, vous avez devant vous 25 ans de vie. Dans les années 70, on est entré en maison de retraite à 74 ans. Aujourd'hui, on va entrer en maison de retraite en moyenne plutôt autour de 87-88 ans, vous voyez. Donc tout s'est décalé et on profite de son âge vieux aussi plus longtemps.
C'est pour cette raison que désormais, des contenus leur sont directement dédiés et c'est assumé avec mesdames de Maïtena Biraben dont vous parliez.
Vous avez quel âge?
Bah, j'ai 67 ans.
Et alors?
Mais on est très bien à 67 ans.
On essaie de dire ici que vieillir, c'est pas grave.
Mais aussi avec d'autres formats comme Télévioc, un JT sur YouTube dédié aux vieux créé par Francis Carrère. Pour lui, être vieux est synonyme aujourd'hui de renouveau.
Il faut innover. Il faut penser que cette époque de notre vie, c'est pouvoir restituer ce que l'on a appris, pouvoir réparer ce que l'on n'a pas su faire, s'investir dans des causes qui nous semblent essentielles, transformer notre vie en ayant un regard différent et d'autres priorités.
Et désormais, une question pour vous, Antoine Decaune, vous qui avez 71 ans, c'est quoi être vieux ?
Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je sais que pour moi, le vieillir, c'est ce qui est important dans le fait de vieillir, c'est de garder intact une forme de curiosité, d'intérêt, d'enthousiasme. J'ai l'impression qu'on devient vieux quand on se résigne, quand on se dit bon allez voilà, c'est tout est joué.
Bon bah alors vous n'êtes pas vieux dans ce cas.
Ah non je suis pas, mais je suis pas le seul dans mon cas. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, alors évidemment quand vous avez survécu à tous les drames qui touchent l'âge venant, mais il y a plein de choses à faire, et nous ce qui nous préoccupait notamment avec vieux, c'était la place des vieux. Dans la société. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on devient une fois qu'on a rendu les bons services à la nation et qu'on vous met sur la voie de garage? Alors qu'on a plein d'envie, alors qu'il y a plein de choses à faire, à transmettre. Il me semble que c'est un sujet, c'est un sujet d'importance.
Il y a plein de vieux qui s'engagent dans des associations.
Ouais,
Mais vous, non, parce que vous continuez votre vie active.
Ben, je continue ma vie active, oui.
Vous n'êtes pas du tout...
je fais un métier un peu particulier. Moi, je suis un saltimbanque, donc je vis dans le désir des autres. Tant que les gens ont envie de me voir et qu'on me tolère et qu'on me propose des projets ou que j'en initie moi-même, ben voilà, j'ai aucune raison d'arrêter.
Et en même temps, on vous voit franchement, physiquement, pas vieillir. Ce n'est pas de la flagornerie, ni de la flatterie.
Supprimons la propriété et nous supprimerons le mal. Et il y a un logiciel de gauche qui se constitue là-dessus et qui nous dit, ben oui, c'est vrai, finalement, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de liberté. Et puis vous avez après Marx qui nous dit on est déterminé par les conditions sociales, c'est-à-dire que dans une civilisation capitaliste, il y a une éthique capitaliste, si on supprimait le capitalisme, on supprimerait le mal, version rousseauiste finalement. On a Freud qui arrive et qui nous dit ah mais c'est l'inconscient, c'est la libido, c'est toutes ces choses-là qui font que mais vous n'avez pas le choix, vous êtes déterminé par la société, dit Marx, vous êtes déterminé par votre inconscient, dit Freud, et globalement il n'y a plus de responsabilité. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Donc j'ai la possibilité de jouir sans entrave, selon la formule de mai 68. Il n'y a plus de surmoi, comme disait Freud, c'est-à-dire il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'interdiction, vous disant non, tu ne peux pas tout faire. Et c'est une civilisation qui s'effondre, qu'une civilisation dans laquelle on peut dire aux enfants, enfant roi, d'ailleurs il y a quelque chose d'assez paradoxal à ce que ça se passe dans un collège François Dolto, qui a théorisé, elle, l'enfant roi. On a un enfant roi qui dit, mais moi je m'autorise tout ce que j'ai envie de m'autoriser, j'avais juste envie ce jour-là de tuer quelqu'un, j'ai pris un couteau, je ne savais pas qui, mais enfin je voulais juste tuer quelqu'un parce que peut-être il y a eu un mauvais regard d'une une surveillante quelques jours.
Une admonestation en réalité. On va justement écouter Michel Onfray, le procureur de Chaumont, Denis Devalois, qui a expliqué dans quelles circonstances ce jeune de 14 ans, est passé à l'acte.
En garde à vue, l'intéressé se montre détaché, tant au regard de la gravité des faits reprochés que des conséquences vis-à-vis de lui-même. Il ne manifeste au demeurant aucun signe évoquant un possible trouble mental. Il reconnaît être l'auteur du passage à l'acte, mais ne l'explique pas véritablement. Il n'exprime pas de regret ni aucune compassion pour les victimes. Le mis en cause nous indique ne pas avoir eu de grief particulier contre cette surveillance et ne pas la cibler particulièrement. Il voulait s'en prendre, selon ses dires, à un membre du personnel d'encadrement avec un ciblage plus précis sur les surveillantes de cet établissement, mais je reprends encore une fois ces termes, n'importe laquelle. Mis en cause nous déclare avoir eu l'intention de tuer.
Et il a été mis en examen pour meurtre, Michel Onfray. On est stupéfait qu'en fait, à cet âge-là, à 14 ans, on puisse prendre un couteau, venir à l'école avec, dans le but de tuer quelqu'un, mais un peu quelqu'un au hasard, finalement.
Oui.
C'est une génération qu'on ne comprend plus.
Oui, moi je ne comprends pas non plus le procureur qui nous dit qu'il n'y a pas de trouble psychologique. Il n'y a pas de trouble psychologique, mais il avait décidé de tuer, il n'a pas d'empathie, il se moque absolument du fait qu'il ait pu faire ce qu'il a fait, etc. Si ce n'est pas ça, avoir des troubles psychologiques, je ne sais pas ce que c'est. Donc oui, il y a des troubles psychologiques, ce n'est pas parce qu'il y a un dictionnaire qui nous dit...
Non, mais les expertises, pour l'instant, ne l'avaient pas montré. Peut-être que là, dans les prochains jours, les experts psychiatriques le montreront.
Vous prenez trois experts, vous avez trois avis.
Exactement.
Et donc, des avis qui sont parfois donnés par téléphone, qui sont parfois donnés après visioconférence, ou qui sont parfois donnés après une demi-heure de discussion, une demi-heure avec des pervers narcissiques, avec des menteurs, etc. On peut se faire abuser en une demi-heure quand on est psychologue ou quand on est psy, je ne sais quoi. Donc, moi, je vois simplement la description que donne le procureur. Ça s'appelle des troubles psychologiques. Okay. Quelqu'un qui dit « j'ai décidé de tuer quelqu'un, je n'ai pas forcément des raisons et je n'ai aucune empathie pour le personnage, je l'ai fait et finalement, je n'ai aucun regret. » Ce n'est pas un malade mental, ça.
Ouais.
Bon. Donc, il y a un moment donné où il faut aller au-delà un peu de ce qu'on appelle la nosologie, c'est-à-dire les dictionnaires dans lesquels on lui dit « ah, il n'est pas maniaco-dépressif, il n'est pas bipolaire, il n'est pas névrosé, il n'est pas psychotique, il n'est pas schizophrène. » Donc, finalement, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Je pense simplement que, quand je parlais tout à l'heure d'une espèce de lignage de Rousseau jusqu'à Françoise Dolto, on a fabriqué le cerveau d'un certain nombre d'enfants. Un cerveau dans lequel il y a la liberté totale de faire tout ce qu'on veut, comme on veut, sauf que c'était pas l'époque de Françoise Dolto, mais aujourd'hui on a le téléphone, on a les réseaux sociaux, on a le porno en libre accès, on a l'impunité aussi. Parce que comme on fait disparaître le libre arbitre, on fait aussi disparaître l'autorité. Pourquoi y aurait-il de l'autorité? Puisque finalement on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. L'autorité, elle est fasciste, elle est présentée comme telle. C'est-à-dire qu'on confond aujourd'hui l'autorité et l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est l'excès d'autorité. L'autorité, c'est juste de dire à un enfant, ne mets pas ta main dans l'eau bouillante, tu vas te brûler. C'est juste interdire quelque chose pour le bien d'un enfant. C'est juste lui dire, tu n'as pas tous les droits dans la société, tu ne peux pas tout faire, tu n'auras pas tous les bonbons du magasin. Donc il faut ce qu'on appelle la tolérance à la frustration aujourd'hui, mais il faut apprendre à frustrer les enfants en leur disant, non, tu n'as pas tous les droits. Mais Françoise Dolto nous dit, ils ont tous les droits. Et les parents doivent obéir à leurs enfants. C'est tout ça qui se tient, la disparition du libre-arbitre, la disparition de l'autorité et la condamnation de toute autorité présentée comme fasciste ou fascistoïde. Ça devient difficile.
Michel Onfray, une petite pause. On se retrouve dans Face à Michel Onfray dans un instant sur Europe 1. A tout de suite.
Face à Michel Onfray, 13h, 14h, CNews Europe 1.
Psst, les ventes privées commencent chez Conforama.
Avec jusqu'à moins 50% sur tout l'équipement de la maison grâce à la carte Confo Plus.
Chut, mais pas besoin d'en faire un secret. La nouvelle carte Confo Plus Bienvenue est gratuite.
Alors, vente privée pour tout le monde.
Conforama, jusqu'au 24 juin. Voir conditions sur Conforama.fr.
Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. BYD Dolphin Surf, la nouvelle citadine 100% électrique à partir de 19 990 euros. Et pour les journées portes ouvertes du 14 au 15 juin, une borne de recharge est offerte. Offre réservée aux 500 premières commandes dans la limite des stocks disponibles. Conditions et règlements sur byd.com/fr. Pensez à covoiturer.
Bienvenue chez Nicolas. On vous rembourse la différence sur plus de 100 références de vins spiritueux et champagne si vous trouvez moins cher ailleurs.
Mais le champagne, c'est une appellation d'origine contrôlée, une zone géographique et une méthode de production spécifique. Un champagne à prix serré, c'est champagne.
Eh oui. Nicolas, chez nous,
La modération, c'est aussi sur les prix.
Offre de remboursement valable dans les 500 magasins participants. Points crédités sur votre carte de fidélité. Modalité disponible sur nicolas.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut décider de faire confiance à plus de 800 000 conducteurs de Dacia Sandero. Dacia Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers depuis 9 ans en France, est à découvrir à partir de 99 euros par mois pendant les portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Offre réservée aux particuliers, valable du 12 au 16 juin pour Sandero Essentiel SCE 65,9 euros option. Premier loyer 1 700 euros LLD 49 mois 50 000 km si accordiaque. Conditions sur dacia.fr, source 3 à date à janvier 2025. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagés. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Les passagers destination hybride sont priés de se rendre dans leur concession Suzuki la plus proche pour profiter des 5 modèles et 3 technologies hybrides Suzuki à partir de 159 euros par mois. Destination hybride, embarquement immédiat. Profitez des portes ouvertes ce week-end.
Prix pour Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2025. Si accord Kofika Bay. Détails sur suzuki.fr.
Pensez à covoiturer.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Mon dictionnaire me dit concombre, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Oui.
En fait, c'est concombre français, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Et pour son prix, car du 13 au 15 juin, les concombres français sont à 1,35€ les deux. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 68 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Face à Michel Onfray, 13h-14h, CNews Europe 1. Laurence Ferrari.
On est sur CNews et sur Europe 1 en face à Michel Onfray. Il y a aussi la question de l'utilisation des armes blanches. Mmh. Michel, c'est une véritable épidémie. 30 attaques à l'arme blanche par jour en France. La litanie des noms de ceux qui ont été tués, jeunes, moins jeunes, à coups de couteau. Le petit Elias, Thomas, Aboubacar Cissé. Il y a une espèce d'épidémie. Comment est-ce que vous expliquez cela ?
C'est très compliqué en France d'avoir des armes à feu. C'est-à-dire, si vous voulez vous inscrire à un club, c'est très compliqué. Un club de tir, et c'est tant mieux. Et vous pouvez être chasseur, mais il faut aussi passer un permis de chasse, etc. Enfin bon, tout est un peu compliqué. Alors que là, vous avez dans la cuisine familiale une batterie de couteaux qui sont à disposition.
C'est ce qui s'est passé pour Zone de 14 ans.
Voilà, d'où le ridicule d'interdire la vente des couteaux à des enfants. Mm-hmm. Les enfants ne se disent pas, je vais aller acheter un couteau. Il suffit juste, la chose a été dite d'ailleurs par le procureur, il prend son petit déjeuner, il est en train de mouronner parce que l'une des surveillantes a dû lui faire une remarque parce qu'il embrassait peut-être de manière appuyée sa copine ou quelque chose comme
ça.
Et il y voit devant lui la totalité des couteaux qui servent à couper le rôti, à couper le poulet, à tailler le poulet. Enfin, et puis il se dit, je le prends, je le mets dans mon sac et j'y vais. Quoi. Et puis je vais tuer quelqu'un. Donc ça sert à rien aujourd'hui d'imaginer qu'avec des portiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait très bien qu'un certain type de couteau passe tout à fait sans problème dans les portiques. Enfin, on le sait la plupart du temps, mais on ne va pas donner le détail. Que vous pouvez aussi aller chercher des couteaux, même dans la cuisine du lycée où vous êtes. Si vous êtes déterminé, vous foncez, vous arrivez dans la cuisine, vous prenez un couteau, vous menacez tout le monde, et puis c'est parti. Donc ce n'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Je dis que c'est un problème de civilisation, mais on ne fait pas reculer les civilisations. On ne peut pas dire à une civilisation, maintenant, on va en construire une autre. Celle qui est en train de se construire, elle suppose la destruction. Et on a du nihilisme, c'est-à-dire on voit le cerveau vide de ces enfants. Plein de ce qu'est l'enfant, c'est-à-dire ce garçon de 14 ans, il a le cerveau d'un enfant de 3 ou 4 ans qui veut tout de suite et qui ne supporte pas qu'on lui dise non, qui se met à trépigner et qui dit « je vais la tuer ». Et il décide de la tuer le jour même où vous avez de la police, de la gendarmerie qui est là pour faire le contrôle des cartables. C'est-à-dire que la proposition de mettre de la police ou de la gendarmerie partout, ça veut bien dire que ça ne sert à rien. Elle est là, la police, ça n'a pas retenu cet enfant, qui lui a dit, mais moi j'ai décidé que c'était aujourd'hui, il y a peut-être pléthore de gendarmes, mais justement, en présence des gendarmes, je vais y aller. Et puis on a vu, enfin j'ai entendu ce procureur qui nous parle de coups de couteau dans le dos.
Bien sûr.
C'est quand même terrible d'imaginer la scène, c'est-à-dire c'est même la lâcheté la plus absolue, c'est-à-dire que vraiment on y va, c'est quelqu'un qui est sans défense, la victime, c'est quelqu'un qui n'a rien fait, assez probablement, s'il avait des choses à reprocher, c'était à une autre surveillante, mais c'est celle-ci qu'il va prendre de toute façon. Et puis quand il prend le couteau, il a décidé de faire un maximum de dégâts, dit-il. Donc on voit bien le cerveau malade, le cerveau dérangé de ces enfants. Il y a aussi l'idée que quand on n'apprend pas le réel aux gens, et la gauche a fait profession d'enseigner que le réel n'existait pas, que l'idéal et que l'idée c'était beaucoup mieux. Mais quand on n'enseigne pas le réel aux enfants, c'est le virtuel qui prend la place. C'est-à-dire que il y a des séries, il y a des téléphones, on est en train de discuter, il y a des textes, des textos, et le réel, ça n'est jamais plus que ça. Il n'y a plus de contact direct. Ce garçon dont on nous dit qu'il n'a pas de problème psychologique, il a quand même été deux fois
mis à la porte
parce qu'il avait frappé d'autres enfants. Quelqu'un qui frappe des enfants dans un collège, ça n'est pas quelqu'un qui se comporte normalement.
Bien sûr. Il y a aussi la question des personnels scolaires, enseignants, qui sont absolument plus en sécurité. Je disais, c'est les profs maintenant qui ont peur des élèves. Les élèves eux-mêmes ne sont pas en sécurité. Il y a une jeune fille, il y a quelques semaines, qui a été poignardée de 57 couteaux dans la classe. Il n'y a plus de sanctuaire, il n'y a plus d'endroit en réalité. On est en sécurité dans ce pays, Michel Onfray.
Ah non, plus du tout. C'est-à-dire que l'idée d'une délinquance urbaine et de périphérie urbaine, etc., ça ne signifie plus rien du tout aujourd'hui. Ça peut arriver dans le train, ça peut arriver dans le métro, ça peut arriver en campagne, ça peut arriver dans un village, ça peut arriver à la sortie d'une école, ça peut arriver parce que vous avez regardé quelqu'un de travers dans la rue alors que vous étiez en train d'aller faire vos courses. Oui, c'est terminé. D'autant qu'il y a une impunité. Il faut ajouter ça aussi. Disparition du libre-arbitre, disparition de l'autorité et disparition de la punition ou de la sanction.
Oui. Atténuation de la punition, en tout cas, oui, évidemment.
Ah oui, atténuation.
Par les nombreux textes législatifs qui ont été votés.
Et tuer quelqu'un en lui donnant des coups de couteau dans le dos et que vous avez l'excuse de minorité, il va se passer quoi? Et vous aurez de toute façon une magistrature qui, là encore, reprendra le propos de Rousseau, nous expliquant que la société est coupable et responsable. Et puis vous avez des gens qui nous diront, finalement, il est condamnable à ça, il est condamné à ça, et puis il va faire ça parce que remise de peine, il était gentil. Il a violé ni tué personne en prison, donc c'est un garçon sympathique, et il faut le réintégrer, et puis voilà, il va faire quoi? 5 ans, 6 ans. Et donc, j'en sais rien,
je ne veux pas donner les chiffres.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire 6 ans de prison quand vous avez 14 ans? Vous n'avez pas la possibilité de vous projeter dans le temps. 6 ans, c'est tout et c'est rien, ça veut rien dire, et puis de toute façon, vous savez très bien que vous aurez nombre de gens qui seront à vos côtés pour vous expliquer que, on va vous redonner une deuxième chance, comme il est dit. En gros, on en donne deux, puis on donne une autre fois deux, puis parfois, vous avez des Naël à qui on a donné 15 fois leur chance et qui sont encore mineurs.
Il y a aussi la question des victimes qui ne sont plus silencieuses.
Oui.
Et ça, on voit qu'ils en ont marre d'être assignés au silence. En réalité, on leur dit très bien, prenez votre douleur et disparaissez de nos mémoires. On va juste écouter le papa de Benoît. C'est un jeune homme qui a été tué il y a quelques jours à Dax d'un coup de couteau. Il allait fêter ses 18 ans. Comme la maman d'Elias, qui a témoigné aussi cette semaine, un autre jeune qui a été tué à coup de machette. Les victimes parlent, les proches des victimes parlent. Ils en ont assez et ils disent leur colère vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. Écoutons le papa de Benoît.
Je vous remercie du fond du cœur. On vous remercie du fond du cœur, Maëva et Marina. Pour Benoît, notre enfant, notre fils, qui allait avoir 18 ans aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il allait avoir 18 ans. Il se réjouissait de fêter ses 18 ans aujourd'hui avec ses copains. Il a fallu qu'une racaille de merde vienne lui enlever la vie. Je pense que je vais arrêter là. Et encore une pensée très forte pour Benoît. Et encore merci, merci beaucoup à tous d'être venus. Merci beaucoup.
Comment vous expliquez cela, Michel Onfray, que ces victimes décident de parler maintenant? Parce qu'avant, on leur disait, elles vont être récupérées politiquement. Là, ils n'en peuvent plus.
Oui, d'abord, il y a les réseaux sociaux, et c'est l'avantage des réseaux sociaux. Je dis assez souvent du mal des réseaux sociaux pour en dire du bien. C'est-à-dire qu'il y a le meilleur et il y a le pire dans les réseaux sociaux. Là, d'abord, on voit que ce sont des images de Valeurs Actuelles. Donc, il y a donc des journaux qui sont des journaux d'opposition au monde dominant. Valeurs Actuelles fait ces images. Ces images sont montrées, et dans des chaînes comme CNews, ou entendu à Europe 1, parce qu'il y a aujourd'hui des médias alternatifs. C'est d'ailleurs pourquoi ils sont tant détestés, parce qu'ils disent le réel.
Mais t'en regardez et écoutez.
Et puis voilà, alors là on se dit, il y a des images, on vous les montre, faites votre avis, faites votre jugement. Alors ça peut être commenté, on peut estimer que c'est trop commenté, mal commenté ou je ne sais quoi. Enfin, toujours est-il que moi je crois au bon sens populaire et les gens entendent ces choses-là. Et ils se mettent à la place de ce père. Et puis on voit derrière. Juste toi et moi.
Je veux qu'on m'aime, vous écoutez ici votre radio. J'ai tant de choses à vous raconter. C'est le livre de Christian Morin qui est notre invité aujourd'hui dans le rétro.
Ici, dans le rétro, Déborah Grunwald.
Après avoir redoublé votre sixième, votre cinquième, Christian Morin, on part en 1959 à la Sécurité sociale de Bordeaux. Vous êtes là en train de passer des tests pour vous aider à trouver une orientation professionnelle. L'examen psychologique révèle que vous êtes très sensible au beau, que vous avez besoin d'encadrement et d'initiative et que vous avez horreur de la contrainte. La beauté, Christian Morin, vous la trouvez où dans le monde d'aujourd'hui ?
Oh, on peut la trouver partout. L'autre jour, je me suis attardé, j'étais à la campagne avec ma femme et mon fils et toute la famille. Et à un moment, je me suis attardé, j'ai regardé une abeille en train de récupérer du pollen, en train de travailler. Et j'avais envie de la prendre en photo avec les portables maintenant. J'ai pris le temps de regarder une coccinelle, pourquoi pas, de temps en temps. On peut trouver du beau un petit peu partout. Même l'esthétique d'une voiture peut me séduire aujourd'hui. Et je pense, mais vous avez dit quelque chose, c'est que j'aime l'encadrement et à la fois je n'aime pas la contrainte.
Ouais.
C'est paradoxal, mais pourtant c'est ça. C'est-à-dire qu'à la radio et dans ce métier, j'ai trouvé quelque chose de formidable. Il y a les horaires à respecter pour les émissions en direct, mais avant... Et après, je fais ce que je veux. Donc il y a en même temps une liberté dans la façon de venir à un rendez-vous.
Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Quand on déteste les contraintes, comment on fait? Puisque la vie, elle est faite de contraintes.
Bien
à
sûr.
Partir du moment où on vit en société.
Eh bien, on les enrobe de papier chocolat, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il faut avoir ces espèces de libertés. C'est la cour de récré par rapport à l'école.
Est-ce que c'est pas un luxe de pouvoir se dire ça?
Non, parce que je crois que ça ne dépend pas d'un aspect financier. Marcher dans la rue, moi j'adore me balader à Paris, pousser des portes cochères pour voir toutes ces cours intérieures qu'il y a par endroit, et puis visiter la ville, ou dans n'importe quels autres endroits, dans les églises, j'adore visiter les églises aussi, quand il fait chaud, en plus ça rafraîchit. Ça, c'est pas une question d'argent, on peut très bien le faire. L'art de glander, de flâner, et on ne le fait plus, il faut flâner un peu, ça doit vous arriver. Quand on flâne, quand je flâne moi-même, ou quand je feuillette un bouquin l'après-midi avant de travailler sur une émission pour le lendemain, j'ai l'impression de je culpabilise. Je me dis, ah là, je suis en train de rien faire alors que tout le monde travaille autour de vous. Il ne faut pas, ça rend nerveux.
On culpabilise de ne rien faire.
C'est vrai.
Dans ce monde.
Mais oui, je me dis, pour me rassurer, que je suis en train de réfléchir et que cette réflexion va m'aider justement à faire autre chose de mieux, peut-être.
Et ça m'arrive tellement de fois,
vous
je pense qu'on
aussi.
Est... Non, mais c'est surtout qu'on culpabilise, parce qu'effectivement, on est sans arrêt sursollicité, donc dès qu'on ne fait rien, on n'arrive pas à savourer l'instant où on ne fait rien.
À une époque, à la radio, je travaillais tous les week-ends. J'avais 10 heures d'émission, je travaillais les week-ends, donc je ne travaillais pas le lundi et le mardi, je n'allais pas du tout à Europe 1, pour citer la radio. Et je culpabilisais, parce que le lundi et le mardi, tout le monde travaillait autour de nous, le week-end était terminé, donc j'étais toujours psychologiquement un petit peu ennuyé.
Christian Morin, dans votre livre, vous nous parlez aussi de votre première fois, téléportation. Donc voilà, là on va peut-être pas regarder par le trou de la serrure, hein ? On est dans un petit hôtel.
Non, puis la porte n'existe plus.
Voilà. On est dans un petit hôtel à 30 mètres de chez vous. Vous êtes avec Josiane, travailleuse du sexe. Elle a 22 ans, vous en avez 14. C'est donc votre première fois. Vous en parlez de façon totalement libérée. Pourtant, c'est en décalage total avec notre époque. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore parler de ces expériences-là sans être jugé?
Ceux qui liront le livre vont me juger, ou ceux qui m'écoutent actuellement avec vous, Déborah, peuvent me juger. Mais vous savez, on a toujours parlé de l'art de déniaiser des jeunes gens avec les jeunes filles. Je ne mets pas en avant le proxénétisme, mais j'étais dans un quartier où il y avait des bordels, quoi. C'était Mériadec, le centre de Bordeaux, patrimoine de la place Gambetta. Et ces femmes, on les voyait, elles étaient toujours maquillées en dimanche, du matin au soir. Et donc j'ai eu envie, simplement, parce que c'est une envie d'adolescent, j'avais un peu économisé, et je suis allé voir cette jeune femme qui a été tout à fait adorable, d'ailleurs charmante, et je vais vous donner un détail, je ne sais même pas si je le raconte dans le livre, j'avais gardé mes chaussettes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement physiologiquement dans la vie du garçon, de l'adolescent que j'étais, et le lendemain, en allant à l'école, parce que l'école était en bas, à 150 mètres, je la croisais. Et s'est installée une espèce de complicité, de tendresse, et puis un jour, elle a disparu, comme ça, elle est partie.
Mais c'est marrant parce que justement, ce souvenir avec cette prostituée, vous le racontez d'une façon très tendre.
Oui. Oui, parce que ça a été un moment de tendresse, je la remercie, elle était très gentille, mais ça a entraîné chez moi quelque chose aussi, c'est une espèce de respect vis-à-vis des femmes et des jeunes filles que j'ai commencé à connaître quand on commençait à flirter un petit peu. On faisait attention, parce qu'à l'époque, je le rappelle, réclamer une boîte de préservatifs dans une pharmacie, c'était horriblement pénible, c'était difficile. À la limite, on disait, je voudrais demander une boîte de préservatif pour mon cousin qui est actuellement en vacances, enfin bref. Et puis, il n'y avait pas la pilule. Il fallait faire très très attention à beaucoup de choses. Et on nous mettait quand même en garde, mais il fallait se débrouiller un petit peu par nous-mêmes.
Ce jour-là, Christian Morin, vous devenez un homme. Qu'est-ce que ça signifie pour vous être un homme en 2025 ?
Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que chez moi, je pense qu'il y a une part de féminité, comme chez beaucoup d'hommes, par rapport à ce que j'ai toujours apprécié avec les beaux-arts, la beauté, la peinture, les couleurs, etc. Donc on est sensible à ce genre de choses, la musique aussi, évidemment. Je ne sais pas ce que ça veut dire être un homme. Je n'ai jamais aimé les rouleurs de mécanique vis-à-vis des femmes ou des jeunes filles. Il y avait des copains qui disaient oh, « celle-là, quand elle veut, je peux, machin ». Je n'aimais absolument pas parler de mes aventures personnelles. D'abord par respect vis-à-vis de la jeune fille avec qui on pouvait avoir une petite aventure même de 15 jours ou 3 semaines. C'est pas obligé de le raconter sur tous les toits. Je détestais ça.
Vous fanfaronnez pas, quoi.
Non, j'ai jamais aimé ça. Aller me pérorer auprès des autres, les rouleurs de mécanique, j'aimais pas. Donc, je ne suis peut-être pas un homme totalement aux yeux de certains, dirons-nous.
Christian Morin, vous cultivez l'élégance. Un homme élégant, ça passe par quoi ?
On peut dire merde en smoking. Voilà. C'est un raccourci très court.
Et c'est parfait.
Ça suffit.
Ah ouais, complètement.
J'ai pas fait trop long.
Christian Morin, vous avez fait 10 ans aux Beaux-Arts où vous avez noué de grandes amitiés que vous racontez dans le livre. On va continuer à se balader au gré de vos souvenirs qu'on retrouve dans votre livre. Donc j'ai tant de choses à vous raconter. À tout de suite ici sur votre radio.
Ici, actu locale, musique et bonne humeur.
Merci d'avoir choisi la radio ici pour vous accompagner ce week-end. Aujourd'hui, dans le rétro, notre invité, c'est Christian Morin.
Ici, dans le rétro.
Christian Morin, en 1970, vous faites votre service militaire. Aujourd'hui, c'est plus obligatoire. À l'époque, ça l'était. Ça a été bénéfique pour vous ?
Alors, je l'ai fait à l'âge de 25 ans. J'étais sur
Citer. Mais oui, alors ça, j'ai pas compris.
C'est
pourquoi
les beaux-arts. On était sur Citer. C'est-à-dire qu'on avait droit à un sursis par rapport aux études.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Pour ça que j'ai fait à 25 ans. Tout à l'heure, au début de l'émission, on parlait justement des règles de discipline un petit peu à l'école, du respect de l'adulte qui nous dirigeait, qui nous apprenait, qui nous enseignait. Je crois que l'armée aujourd'hui est nécessaire. C'est pas dans le but guerrier que je dis cela. C'est simplement au niveau de l'hygiène. J'ai découvert, par exemple, en 1970, il y avait des garçons qui étaient illettrés. C'est terrible. Bon, ça existe aussi, mais à l'école, on pouvait passer le permis de conduire, au service militaire plutôt. Je pense que, là encore, même un service de 4 ou 5 mois, pas trop long, sans handicaper les études, pourrait recadrer un peu cette jeunesse un peu folle.
Vous parliez de l'hygiène et de l'illettrisme. Quel le lien, enfin, quel...
Ça dépend des familles. Vous savez, quand vous êtes dans une chambrée de 25 ou 30 garçons, tout le monde, d'autant que quand je suis arrivé à Montluçon en janvier 70, il faisait un froid épouvantable et il y a eu une panne de douche pendant 10 jours. Donc on ne pouvait se laver qu'avec des tout petits lavabos. Malheureusement, il y avait des carreaux qui avaient été cassés. Il faisait un froid à 5h30 ou 6h du matin. On n'était pas très nombreux du côté des lavabos. Mais 25 ou 30 bons hommes, bon, puis il y avait les
entraînements. Mais ça a changé maintenant.
Oui, si oui.
Demain, non, on mettait le service militaire.
Mais je pense. Mais non, mais en même temps, si vous voulez, je crois que c'est au niveau du tempérament. Un adolescent jusqu'à 18, 19 ans, 20 ans va devenir un parent plus tard, va fonder une famille, va avoir des responsabilités. Je pense que le recadrage de l'armée permettait au moins un aiguillonnage un petit peu mieux organisé. Mais là, on passe carrément de l'adolescence, j'exagère, à la maturité rapide.
À ce moment-là, Christian Morin, vous arrivez à Paris, vous êtes un vrai mélomane. Vous jouez d'ailleurs dans les clubs de jazz. Le dessin aussi occupe une grande place dans votre vie. Vous partagez votre passion et quelques anecdotes dans le livre. J'ai tant de choses à vous raconter. Téléportation. Nous sommes le 9 janvier 1972.
Pierre. D'uranium enrichi de 400 kilos, d'uranium enrichi à 60%, pour aller vers une arme nucléaire, il faut enrichir l'uranium à 90%. Mais ensuite, il faut être capable de fabriquer l'ogive, il faut être capable de mettre l'ogive sur un missile, il faut être capable de faire des essais. Temps estimé, les Israéliens disent un an à peu près. Temps estimé dans les milieux américains, c'est plutôt 2 ans. Mm-hmm. C'est pas très long. Et oui. Temps estimé lui-même par le Premier ministre iranien, lorsqu'il a parlé, Netanyahou, hier, il a dit un an, peut-être moins. Voilà.
Une dernière question que j'avais à vous poser, c'est sur la CIA en elle-même, dont nos éditeurs peuvent se dire... Bon, on a quand même un pays, l'Iran, qui est très très éloigné des États-Unis, mais la CIA qui parvient quand même à avoir des informations sur ce qui se passe... En Iran, comment c'est possible ?
C'est possible d'abord parce que la CIA dispose d'un appareil d'écoute, absolument invraisemblable. Probablement aucun pays au monde, peut-être la Chine demain, très vite, mais ne dispose d'un appareil d'écoute aussi puissant. Ensuite, vous constaterez la précision des tirs israéliens.
Mm-hmm.
Donc, il semble bien qu'Israël a pénétré très haut la direction iranienne. On l'a vu en 2024, on le voit à nouveau. Autrement dit, la qualité des renseignements israéliens sur l'Iran est impressionnante et elle suppose une pénétration dans des milieux très importants de la République islamique. Eh bien, ces renseignements-là, il est vraisemblable que la CIA en dispose aussi parce que les services israéliens lui transmettent.
Alain Frachion, éditorialiste au journal Le Monde, qui préface aussi le rapport de la CIA sur les menaces dans le monde. Il répondait à Adrien Beck pour France Info.
Mercedes-Benz.
Il vous faut quoi pour passer à l'électrique ? Une grande autonomie, un SUV compact ou un SUV 7 places ? Un loyer attractif ? Et pourquoi pas une Mercedes ? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line dès 399 € par mois.
Location longue durée 37 mois, 45 000 km. Premier loyer de 399 €. Bonus écologique de 2 000 € déduit si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
France Info, 10h, 14h, Benjamin Fontaine.
Et les cours du pétrole montent en flèche après les attaques sur l'Iran. Le dollar, lui, baisse encore face à l'euro. Comment notre économie peut-elle surmonter ces tensions géopolitiques? On ouvre le débat dans les informés de l'écho après le fil info à 13h42 avec Armand Perrouloga.
Israël poursuit ses bombardements sur des sites iraniens. L'État hébreu dit avoir bombardé les défenses aériennes et des lanceurs de missiles en Iran. Deux généraux iraniens ont aussi été tués ce matin et 9 scientifiques du nucléaire depuis hier. Ce matin, une frappe israélienne a aussi visé une raffinerie dans le nord-ouest de l'Iran. L'Iran qui a riposté en tirant depuis la nuit dernière près de 150 missiles contre Israël. Un immeuble d'habitation a été touché à Tel Aviv, faisant au moins 3 morts et une quarantaine de blessés. En France, plusieurs syndicats et partis de gauche appellent à manifester cet après-midi pour les droits des Palestiniens et pour réclamer la paix à Gaza. À Paris, la manifestation partira à 14h de la place de la République, direction celle de la Nation. Aux États-Unis, Donald Trump s'offre une parade militaire ce samedi à Washington pour son 79e anniversaire. Plus de 6000 soldats vont défiler dans la capitale. Les opposants au président américain sont eux appelés à manifester en nombre à travers le pays contre son début de mandat autoritariste. En France, attention aux orages cet après-midi et ce soir dans le centre. Reste 13 départements sont en vigilance orange du Puy-de-Dôme à la Marne. La nuit dernière, un homme de 68 ans a été tué par la chute d'un arbre à Grandchamp dans les Yvelines. Et puis en cyclisme, c'est parti pour l'avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné, étape de montagne jusqu'à Valmeignier 1800 avec 3 cols hors catégorie au programme. 15 hommes se sont échappés. Ils devancent un peu plus d'une minute le groupe du maillot jaune Tadej Pogacar.
France Info.
Et on retrouve tout de suite Adrien Beck et Emmanuel Cuny pour les informer de l'écho.
Et bienvenue dans les informés de l'écho, votre débat comme chaque samedi matin autour de l'actualité économique et sociale. Bonjour Emmanuel Cuny.
Bonjour à tous.
Débat en votre compagnie et avec nos deux informés ce matin. Bonjour Alexandra Roulet.
Bonjour.
Vous êtes membre du Cercle des économistes, professeur d'économie à l'Institut européen d'administration des affaires. Et bonjour Anne-Sophie Alsif.
Bonjour.
Vous êtes une habituée, mais je vous présente quand même, chef économiste de la Société d'études BDO France, enseignante en économie à la Sorbonne. Aujourd'hui, notre thème, Emmanuel, est au cœur de l'actualité de ces dernières heures, l'actualité qu'on vous fait vivre depuis hier sur France Info, la situation entre Israël et l'Iran, cette attaque, cette contre-attaque et ses conséquences économiques, Emmanuel.
Nombreuses conséquences et nombreux rebondissements, effectivement. Alors que les cours du pétrole flambent littéralement depuis la première offensive d'Israël sur l'Iran. Les premières frappes, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Le pétrole s'envole. On va voir concrètement à quel niveau il est ce matin. Parallèlement, le dollar, lui, est au plus bas depuis 3 ans face à l'euro. Pour ce qui est de la baisse du dollar, en fait, la tendance était déjà amorcée depuis un certain temps, mais c'est vrai que les tensions géopolitiques ont accentué le mouvement. Dans tous les cas, ce qui est en train de se dérouler au prochain Moyen-Orient, eh bien, ne sera pas sans conséquences pour nous, reconnaît le président de la République, Emmanuel Macron.
En fonction de l'évolution de la situation, des bombardements, des cibles qui seront prises, l'économie mondiale peut être impactée. Qu'il s'agisse des routes commerciales et des menaces sur le détroit d'Ormuz, qu'il s'agisse des capacités de production pétrolière mondiale, qu'il s'agisse de tous les autres sujets dans lesquels la région, pour lesquels la région a un impact très clair. Notre principale préoccupation est sécuritaire aujourd'hui. Mais compte tenu de l'incapacité de qui que ce soit à se prononcer sur la durée, l'étendue des opérations et des ripostes, nous devons nous préparer aussi à des conséquences économiques.
Le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'exprimait hier soir à l'Élysée lors d'une conférence de presse. Donc on voit nouveau coup de boutoir pour l'économie, alors européenne et a fortiori française, bien sûr. Et tout ça dans un contexte budgétaire très tendu, parce qu'on est en train de préparer le budget 2026.
Avant de vous interroger, une petite précision géographique sur le détroit d'Ormuz qu'Emmanuel Macron citait. On est donc entre les Émirats et l'Iran. C'est un détroit qui donne en fait l'accès au golfe Persique et qui est un endroit évidemment
vraiment stratégique.
Et si l'Iran bloque ce détroit, c'est 20% du pétrole mondial qui est concerné.
Voilà, c'est un détroit qui cristallise souvent les tensions géopolitiques. Alexandra Roulet, je commence avec vous. Est-ce que le scénario que l'on vit depuis 24 heures, un peu plus maintenant, c'est vraiment un scénario catastrophe pour l'économie mondiale en termes de géopolitique, bien sûr?
Alors, c'est un scénario un peu catastrophe d'un point de vue géopolitique. Enfin, c'est-à-dire, évidemment, je pense que à ce stade, c'est essentiellement des événements d'ordre géopolitique. Les conséquences économiques, c'est un tout petit peu prématuré pour pouvoir en appréhender toutes les conséquences, parce que ça dépend évidemment de la suite des événements. Il y a deux choses qu'il faut rappeler. C'est que certes, le cours du pétrole a énormément augmenté hier, mais il partait d'un point très bas. Le deuxième point, c'est que le maître mot de 2025, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que, et en fait, donc ça, c'est le cas aujourd'hui suite à ce qui se passe au Moyen-Orient. C'était déjà le cas hier. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, toutes les tensions commerciales, in fine, il y a beaucoup d'allers-retours. Et en fait, ce qui pèse sur l'économie en ce moment, c'est l'incertitude. Parce que c'est ça qui freine les décisions d'investissement et les décisions d'embauche. C'est qu'on a beaucoup de mal à prévoir avec certitude ce qui va se passer dans quelques mois.
Mais Anne-Sophie Alsif, quand même, moi, ça fait à peu près depuis 2014 et la première partie de l'invasion de l'Ukraine que j'ai l'impression qu'on parle de ce risque géopolitique sur l'économie. Mmh. Est-ce que, quand même, c'est pas quelque chose aujourd'hui que les investisseurs ont quand même un peu intégré, que à tout moment, il peut y avoir des incertitudes, comme le disait Alexandra Roulet?
Oui, complètement. C'est sûr qu'il y a de l'incertitude, mais bon, c'est un peu tous les ans qu'on dit ça depuis maintenant assez longtemps. Donc, c'est vrai que c'est quand même très intégré, notamment par les industriels, hein, qui, aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup pour eux, font des scénarios noirs. Alors, ce scénario noir, avant, était vraiment marginal, à 10-20%. Aujourd'hui, il remonte. Et puis, surtout, ils font, notamment les industriels, des prévisions à très long terme. Hein. Je parlais 2050, 2060, pour justement, dans ces scénarios, bien voir comment ces chocs vont être intégrés. Ce qui est important aussi, c'est que depuis le Covid, hein, on a vraiment une réflexion sur les questions d'approvisionnement et sur les fameuses chaînes de valeur mondiales, plus ou moins réintégrées en fonction des secteurs. Et là, c'est vrai que c'est un choc de plus. Donc certes, il peut y avoir des conséquences économiques, mais la vraie conséquence, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est qu'on a un ralentissement de la croissance mondiale qui est bien avant les chocs géopolitiques qui ont commencé, qui sont dus bien sûr par rapport aux droits de douane qui ont vraiment eu un impact sur la croissance américaine et donc un ralentissement vraiment de la demande mondiale. C'est pour ça que le pétrole s'est effondré hein, ces derniers mois. Et là, en effet, on a un sursaut, mais c'est pour l'instant très conjoncturel. Donc avant de dire attention, en France, il y aura des conséquences importantes. Il faut aussi peut-être avoir une lecture politique. En France, on a un très fort ralentissement de croissance qui a eu lieu à cause de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ça qui a fait...
Mais là, c'est politique et pas géopolitique, effectivement.
Et ça n'avait rien à voir avec la géopolitique.
Bon, Emmanuel Cuny, on parlait donc des conséquences globales, des conséquences potentiellement pour les investisseurs, les entreprises. On peut aussi s'attendre peut-être à des conséquences concrètes, peut-être aussi.
On pense tout de suite, et surtout à la veille des départs en vacances, au prix de l'essence du carburant à la pompe. La grande question est de savoir, si on est aujourd'hui effectivement à un prix du baril de 75-76 dollars, on a pris 10 dollars en l'espace d'un mois, puisqu'au mois de mai, on était aux alentours de 65 dollars le baril. Donc, est-ce qu'il va y avoir une répercussion immédiate? Non, on peut partir ce week-end sans problème. S'il y a répercussion, ce sera probablement dans quelques semaines. Mais il y a plein d'autres facteurs qui vont entrer en jeu. On parlait du détroit d'Hormuz. Est-ce que l'Iran va bloquer le trafic pétrolier mondial? Comment vont réagir même les autres pays, les membres de l'OPEP+, les pays producteurs, dont la Russie? Donc, quelle attitude vont-ils avoir face à ce truc-là? On va vraiment, là, dans une période d'incertitude assez complète. Face à cela, il y a, je le disais tout à l'heure, le dollar qui est au plus bas depuis 3 ans, face à l'euro. Et quand un dollar est plus faible que l'euro, ça renforce le prix de nos exportations, donc ça peut freiner nos exportations.
Donc, ça coûte plus cher de vendre des biens français à l'étranger.
Voilà. Et les clients étrangers qui nous achètent plus cher. Donc, c'est peut-être plus dissuasif, ça peut entamer notre croissance, et tout ça, évidemment, on le sait, dans un contexte budgétaire, je le disais également, totalement dégradé. Ça, moins de croissance, ça veut dire moins de rentrée fiscale, puisqu'il y a moins d'activité. Donc, pour boucler le budget prochain, ça va être compliqué.
Est-ce que face à cela, on a des leviers, Alexandra Roulet?
Oui, je voulais juste rassurer sur la question du carburant. Il faut, comme l'a dit Anne-Sophie, en fait, depuis le Covid, on a vu l'importance des chaînes de valeur et des routes, etc. Mais on a vu aussi qu'on pouvait s'adapter. Donc, par exemple, le détroit d'Hormuz, vous avez eu raison de le dire, il y a 20% du pétrole mondial qui transite par ce détroit. Donc, si on le ferme, évidemment, on comprend que c'est très embêtant. Mais... en fait, nous, on importe. L'Union européenne n'importe pas de pétrole d'Iran directement, grosso modo. On importe du pétrole de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Et en fait, l'Arabie saoudite, certes, son pétrole passe par le détroit d'Hormuz, mais ils ont aussi
des possibilités de rediriger le pétrole par d'autres routes. Donc, ce que je veux dire, c'est que...
Ils ont anticipé.
Il y a des capacités de résilience, quand même, qui font que une partie du choc peut être aussi absorbée par le fait juste qu'on s'adapte et on prend d'autres routes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix à la pompe, mais il n'y a pas forcément une répercussion totale. Il faut bien prendre en compte que ce qu'on a vu aussi avec tous ces chocs, c'est que les pays sont plus préparés, et c'est un peu aussi le sens de votre précédente intervention, préparés à faire face à des troubles dans leur circuit traditionnel.
Alexandra Roulet, Anne-Sophie Alsif, vous ne bougez pas, on vous retrouve dans un instant pour la suite des Informés de l'Écho.
Les Informés de l'Écho, avec Advenir, le programme C2E qui accompagne l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Rendez-vous sur advenir.mobi.
Et la suite, c'est juste après le fil info avec Armand Perrouloga à 13h50.
Pas d'accalmie entre Israël et l'Iran. L'État hébreu poursuit ses frappes sur l'Iran visant des lanceurs de missiles, des sites nucléaires ainsi qu'une raffinerie dans le nord-ouest du pays. Ce matin, 2 généraux iraniens ont été tués ainsi que 9 scientifiques du programme nucléaire iranien depuis hier. L'opération durera de nombreux jours, précise le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. De son côté, l'Iran a tiré des dizaines de missiles balistiques contre Israël. Certains ont atteint des cibles, faisant 3 morts et des dizaines de blessés à Tel Aviv. Pendant ce temps, la guerre en Ukraine continue. Le président Zelensky appelle les États-Unis à changer de ton avec la Russie. Il estime que l'administration de Donald Trump est trop conciliante avec Moscou. En France, un mort et 2 blessés graves ce matin après une fusillade dans un camp de migrants à Longue-Plage dans le Nord. Fusillade qui a eu lieu près d'un site de distribution de nourriture. 2 personnes ont été interpellées. Et puis 13 départements seront en vigilance orange aux orages cet après-midi et ce soir dans le centre-est du pays. Ça va du Puy-de-Dôme à la Marne. La nuit dernière a été très agitée dans le sud-ouest et le nord-ouest de la France. Un homme est mort dans les Yvelines après l'effondrement d'un arbre sur un pavillon de chasse.
France Info.
Les Informés de l'Écho, Emmanuel Cuny, Adrien Beck.
Toujours avec Alexandra Roulet, professeur d'économie à l'Institut européen d'administration des affaires, et Anne-Sophie Alsif, chef économiste de la société BDO France. Nous évoquons ce matin et nous continuons d'évoquer, Emmanuel Cuny, les conséquences de la situation géopolitique très incertaine entre Iran et Israël, avec effectivement une question aussi plus positive, j'allais dire, qu'on se pose comment faire face.
Oui, alors comment faire face, d'autant plus que de la Banque mondiale à la Banque de France, on l'a vu cette semaine, tous les instituts de conjoncture révisent à la baisse leurs prévisions de croissance. On sera en dessous de 1% de croissance du PIB, le produit intérieur brut, alors qu'il faut trouver 40 milliards d'euros pour boucler le budget 2026. Est-ce que cela va passer par des économies à tous les étages? D'évidence. Est-ce qu'on va s'attaquer également au biais fiscal? Très probablement. Mais la France a des atouts, et notamment dans les nouvelles technologies. Il y a le salon VivaTech qui se tient à la porte de Versailles à Paris jusqu'à ce soir. C'est une mine extraordinaire pour voir les richesses que nous avons sur le sol français aujourd'hui.
Alors Anne-Sophie Alsif, on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont exposées encore à ce risque et qui peuvent donc retarder des décisions d'investissement, être en difficulté sur leurs approvisionnements, par exemple?
Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on regarde depuis 20 ans, dans beaucoup de secteurs, eh bien, les approvisionnements ont été un petit peu régionalisés, c'est-à-dire que l'objectif, c'était d'avoir des étapes de production qui soient de...
Des heures. Eh bien, je vous réponds qu'il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième produit LEF acheté. Et c'est valable sur tout LEF. Alors rendez-vous jusqu'au 22 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive. Carrefour. Selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Envie de vacances 100% détente? Cet été, mettez-vous en mode farniente dans un club Framissima. Club Fram parfaitement situé, ambiance chaleureuse, animation en cascade pour petits et grands. Fram a tout prévu pour que vous profitiez à fond. Baléares, Crète, Sardaigne, Sicile ou Maroc, nos destinations soleil n'attendent que vous.
Infos et réservations dans votre agence de voyage Selectour la plus proche ou sur selectour.com. À vos côtés avant, pendant et après votre séjour. Selectour, ça vous fera des vacances.
Nectarine ou Brugnon?
Je sais pas.
Paréo ou Pentacourt? Volkswagen ou...
Volkswagen.
J'ai pas dit la fin.
Si, Volkswagen.
C'est parfois facile de choisir. Surtout pendant les instants Volkswagen du 12 au 16 juin, avec le T-Cross à partir de 139 € par mois. Pour l'achat d'un T-Cross VV édition 9, LLD 37 mois, premier loyer de 4 000 €, puis 36 loyers de 139 €, si acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable du 1er au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. pensez à covoiturer.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Mon dictionnaire me dit concombre, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Oui.
En fait, c'est concombre français, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Et pour son prix, car du 13 au 15 juin, les concombres français sont à 1,35€ les deux. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 68 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Chez Optique 2000, on a observé, réobservé, ré-réobservé les enfants et voilà ce qu'on a retenu.
Maman, j'ai mal à la tête. Papa, pourquoi j'ai mal aux yeux? Mes yeux, ils me grattent.
Dès le plus jeune âge, il est important de préserver le confort visuel des enfants. Pour qu'ils restent à l'aise en toutes circonstances et au quotidien, nos opticiens vous conseillent le pack junior. Pour une première paire achetée et 30€ de plus, profitez d'une seconde paire anti-reflet et d'une troisième paire solaire à la vue. Optique 2000, on va se revoir. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien.
Carrefour. Quand vous me dites les fraises gariguettes, juteuses, fondantes et tellement goûteuses, ça tombe bien. Le bon plan du week-end, c'est la barquette de 250 grammes de fraises gariguettes origine France à 2,99€, soit 11,96€ le kilo. Alors rendez-vous jusqu'à demain chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr.
On a tous ce copain, cette cousine, ce voisin qu'on admire parce qu'il donne son sang régulièrement. Et si c'était le moment pour vous d'en faire autant? Oui, si là, tout de suite, vous l'appeliez pour lui proposer d'aller donner votre sang ensemble. En juin, tous unis par le don. Rendez-vous sur le site Don de sang de l'établissement français du sang.
Avant, la Révolution française, c'était ça. Mais maintenant, c'est ça. Bien plus confortable, non? Citroën C3, avec ses sièges et ses suspensions Advance Comfort. À partir de 15 750 euros pendant les portes ouvertes du 13 au 16 juin. Disponible également en version électrique et hybride.
Citroën.
Tarif conseillé à particulier jusqu'au 30 juin pour l'achat d'une Citroën C3 U9 hors option. Détails sur citroën.fr selon réseau participant. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Vous avez un nouveau message.
Allô patron, faut que je vous dise, Lidl chipote pas sur les chipots. En ce moment, les 12 chipolatas supérieures aux herbes sont à moins 27%, soit 4,69€ au lieu de 6,49€. Et du port origine France, hein.
39 centimes la chipolata.
Mais on est grillé.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinscher.fr. 660 grammes, 7,11€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Dans votre restaurant Trois Brasseurs, la cuisine est généreuse et authentique, inspirée par les recettes traditionnelles de notre terroir. Et chez Trois Brasseurs, la bière que nous servons, c'est la bière que nous fabriquons. Élaborée par nos brasseuses et brasseurs, elle possède un caractère unique et singulier. Le nôtre. Trois Brasseurs, le nouvel esprit brasserie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Nostalgie présente Johnny Hallyday, le concert de la Tour Eiffel, 25e anniversaire au cinéma. Vibrez lors d'une séance événement unique, dimanche 15 juin à 20h. Infos et réservations sur johnnytoureiffel.com et nostalgie.fr. Johnny Hallyday, le concert de la Tour Eiffel au cinéma avec Nostalgie, les plus grands tubes.
Ah oui, on s'y croise demain soir. Hein. Les plus grands tubes sur Nostalgie avant d'écouter The Police, c'est David Bowie, un bon anniversaire à Laurent Boutonnat, le Pygmalion de Mylène Farmer. C'est lui qui se cache derrière ce grand classique à 14h.